Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue pour cette nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce. On attribue le plus souvent à l'écrivain André Malraux le fameux mot « Le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas ». Pourtant, Malraux se défendait de l'avoir prononcé. En revanche, dans la revue Preuve, en 1955, il a écrit « Le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux, sous une forme aussi différente de celle que nous connaissons que le christianisme le fut des religions antiques ». Malraux a enfin affirmé dans « L'homme et le fantôme » que la tâche du prochain siècle sera d'y réintégrer les dieux. Storia Voce vous propose aujourd'hui de sortir quelque peu du sillon de l'histoire sans l'abandonner tout à fait, en se posant une question qui peut paraître simple mais qui, au regard précisément de l'histoire mais aussi de la philosophie, est bien plus complexe. Qu'est-ce qu'au fond qu'une religion ? Comment peuvent s'articuler la foi et la raison que pendant longtemps une vision positiviste de l'histoire a souhaité séparer. Mais plus encore, est-ce que la religion est dans l'histoire et notamment dans le récit biblique source de liberté ou au contraire de soumission, de violence ou bien au contraire de paix ? Mais avant d'explorer ces questions, un simple rappel, n'hésitez pas à soutenir Storia Voce, nous avons besoin de vous pour développer le contenu sur notre radio. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Soutenez-nous qui est disponible dès la page d'accueil du site internet. Rémi Braque, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter ? Vous êtes membre de l'Institut, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et à l'Université Ludwig-Maximilian de Munich. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et vous venez de publier aux éditions Flammarion un ouvrage intitulé « Sur la religion ». Cet ouvrage s'inscrit bien évidemment dans un contexte d'actualité. C'est le retour du religieux alors qu'il y a encore 30 ans, au fond, on devait avoir une vision politique, mais la religion, tout le monde, pour ainsi dire, s'en moquait.
Oui, c'est une remarque par laquelle je commence l'introduction de mon livre et dont je me suis aperçu par la suite qu'elle n'était pas de moi, mais si je ne me trompe, et je peux me tromper, de Michel Serres, qui a fait remarquer il y a quelques années que, alors qu'il y a 30 ans, quand on voulait que les fronts se plissent et que les voix deviennent graves, on parlait de politique, alors que pour faire rire les gens, il suffisait d'employer le mot religion, ou religieux, ou des choses comme cela, voire Dieu. Et bien maintenant, la situation s'est exactement inversée. Le politique n'est pris au sérieux que de manière exceptionnelle. Certains politiciens nous y aident en se comportant comme des clowns du reste et d'ailleurs. Et en revanche, lorsque l'on parle de religion, alors là, eh bien, on a le même phénomène qu'il y a 30 ans pour la politique. Les fronts se plissent, les regards deviennent graves, la voix baisse d'un ton, et on a l'impression d'entrer dans ce qui est vraiment du sérieux. Le reste l'étant beaucoup moins.
Vous avez souhaité, Rémi Braque, en quelque sorte réexpliquer, redonner les fondamentaux de ce qu'est la religion ?
Écoutez, d'une part, j'ai voulu, effectivement, comme vous l'avez dit, me placer à un niveau assez fondamental. Je dirais même, pour employer un adjectif moins laudatif, assez élémentaire. C'est ce qu'indique, par exemple, le titre de mon livre, qui est d'une platitude insigne et voulue. Sur la religion, voilà, ça ne dit pas grand-chose. On m'avait proposé, chez l'éditeur, qu'est-ce que la religion, ou qu'est-ce qu'une religion, je ne sais plus trop quel était lequel des deux choix, mais j'ai voulu éviter un titre aussi prétentieux, parce que si l'on demande qu'est-ce que la religion, on attend une réponse, donc on attend une définition. Et cette définition, ben, je ne fais que l'approcher par petites touches, sans jamais la présenter de manière thématique et centrale. Bien. D'une part, ceci d'une part. D'autre part, il m'a semblé nécessaire, eh bien justement, de rappeler des notions finalement très élémentaires au sujet d'un objet dont je ne sais pas trop s'il faut que je le nomme au singulier la religion ou au pluriel les religions, et pour de multiples raisons. D'une part, je ne peux prétendre me prononcer de manière un peu responsable sur toutes les religions. Bon, il y en a eu, et il y en a encore des dizaines, des grandes et des petites, bon, de toutes les couleurs, si je puis dire, et j'ai préféré me restreindre, non pas du tout pour des raisons de mépris ou de condescendance, mais tout simplement pour des raisons linguistiques. C'est que je n'ai pas un accès direct aux religions de l'Inde, aux religions de l'Extrême-Orient, sans parler des religions africaines, des religions précolombiennes d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. J'ai préféré me restreindre à ce sur quoi je peux atteindre directement les textes dans lesquels un petit nombre de religions se sont exprimées. Donc, les religions du paganisme, de ce qu'on appelle le paganisme grec et romain, et ce que l'on appelle, d'une manière qui, à mon avis, est erronée, mais enfin bon, c'est entré dans le vocabulaire, les trois religions monothéistes, donc christianisme, judaïsme et islam. Ensuite, j'ai quelques réserves, justement, contre l'usage d'un même mot, d'un mot fourre-tout, le mot de religion, pour désigner des ensembles de phénomènes qui, finalement, n'ont qu'un air de famille entre eux. Je n'ai pas pu trouver d'autres mots, il n'en existe pas dans le vocabulaire de la langue française que le mot religion, donc je l'ai gardé, mais un peu la mort dans l'âme, à contre-cœur. Et je commence par expliquer que l'usage que nous en faisons actuellement, à savoir non pas pour désigner soit les vœux de religion, ce qui fait qu'un homme s'appelle un religieux dans le vocabulaire français courant, ni non plus le culte, ni non plus la relation, enfin là l'étymologie, je ne voudrais pas introduire une étymologie qui en fait est tout à fait douteuse du point de vue philologique. Enfin disons, le lien de l'homme au sacré, ou au saint, ou à la transcendance, ou au divin, comme on voudra le dire, là je m'exprime volontairement de la manière la plus vague possible, justement pour ne pas préjuger des résultats. Eh bien, j'ai essayé de montrer que le mot de religion, au sens où nous disons maintenant, il y a différentes religions dans le monde, il y a bon, le christianisme, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a le shinto, il y a l'hindouisme, etc., etc. Eh bien, cette manière de parler est finalement assez récente. Assez récente du point de vue de l'historien des idées. Je ne suis pas historien, mais enfin, je fais un peu d'histoire
mais
des
vous
idées.
Beaucoup d'histoire dans votre livre.
Disons que j'ai des lectures, hein, mais enfin, je n'ai jamais appris la méthode historique, qui est quelque chose de sérieux. Et bon, je prends l'histoire et les historiens tout à fait au sérieux, et je ne me permettrai pas de m'agréger à leur corporation. Mais lorsque je fais de l'histoire des idées, ou bien employer le mot, je le fais à très long terme. Donc quand je dis récemment, ça veut dire en l'occurrence le début du 19e siècle, qui pour moi est vraiment hier, si vous voulez, quand on se place du point de vue de Sirius, qui est le mien. Donc, ça n'est guère que depuis le début du 19e siècle que l'on dit, que l'on appelle religion, eh bien, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, etc. Il est amusant qu'au Moyen-Âge, bon, je suis un peu médiéviste sur les bords, au Moyen-Âge, lorsque, en Occident, et pas seulement d'ailleurs chez les chrétiens, mais aussi chez les juifs, et aussi au Moyen-Orient, en terre d'islam, lorsqu'on voulait parler des religions, de ce que nous appelons maintenant les religions, on employait le mot loi.
Lex.
Voilà, lex.
Dans la scolastique, on utilise
lex
le mot
pour
lex.
Les latins. Absolument. Lorsque Thomas d'Aquin veut parler de l'islam, il dit la loi des maures, lex maororum. Bon. Les maures au sens, bon, on parlait des chrétiens et des maures en Espagne, par exemple. Bon. Eh bien, il me semble intéressant de faire remarquer que, justement, notre usage actuel du mot religion, bon, est commode, bien entendu, parce qu'il faut bien se comprendre, il faut bien employer les mêmes mots, mais il peut nous induire en erreur dans la mesure où cette notion de religion que nous appliquons donc à tout un éventail de phénomènes, cette notion de religion est d'origine chrétienne.
Notre vision est une vision avant tout chrétienne, au fond occidentale.
Et cela vaut aussi bien pour le pratiquant le plus pieux que pour le bouffeur de curé le plus enragé. Hein, lorsque l'un respecte la religion, lorsque l'autre lui crache dessus, ils croient tous les deux s'adresser au même objet, à savoir avant tout une sorte de christianisme, avec quelques variantes, avec des additions, avec des soustractions. Alors on parlera, je ne sais pas, on dira par exemple, dans le bouddhisme, c'est une religion, mais il n'y a pas de Dieu. Ce qui est vrai du bouddhisme primitif. Bon, le bouddhisme ensuite a évolué et a admis, disons, l'intercession de personnages que l'on peut appeler divins si l'on veut, et qui, d'une certaine manière, tendent à l'homme une bouée, afin qu'il ne se noie pas dans l'océan des réincarnations. On dira que l'islam est une religion dans laquelle il n'y a pas de clergé. Bon. Et on négligera de la sorte, on offusquera ce qui constitue l'original, enfin vraiment ce qu'il y a de propre dans ce que j'appellerais la prétention, dans un sens non péjoratif, enfin ce qu'une religion croit être vrai, bon, et croit devoir être fait également. Alors, par exemple, on va négliger dans l'islam l'aspect juridique, l'aspect selon lequel il prétend donner pour à peu près tous les problèmes qui se posent à la vie humaine, à la vie la plus quotidienne, comme à ses aspects les plus relevés, une solution, un mode d'emploi, une démarche à suivre. Ça serait une manière d'ailleurs assez étymologique de traduire charia, ou puisque le même phénomène se retrouve dans le judaïsme, le mot de halakha, hein, c'est la démarche à suivre, c'est le chemin à suivre. Bon, ça, les gens qui sont de formation chrétienne, qu'ils aient accepté, assimilé cette religion ou qu'ils l'aient rejetée totalement, les gens de formation chrétienne ont du mal à le voir, parce que justement dans le christianisme, il n'y a pas d'autres manières de se comporter que celles que demande la morale commune, hein, la morale la plus banale, ce qu'un auteur que j'aime bien appelait les grandes platitudes. Hein, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas porter de faux témoignages. Bon, c'est quand même très, très élémentaire. Bon. Et nous avons du mal à faire entrer donc dans notre cadre conceptuel l'idée selon laquelle il serait essentiel à une religion de dire comment se coiffer, comment se nourrir, comment s'habiller, et des choses qui pour nous relèvent du domaine du profane. Donc attention, le mot religion pourrait mordre, comme l'indique la bande qui adorne le livre, et dont le texte n'est pas de moi, mais enfin je l'ai approuvé parce qu'elle est assez amusante, à savoir approcher, elle ne va pas vous mordre. Ne vous mordra pas, quelque chose comme ça.
Est-ce que vous le savez bien mieux que moi, que l'homme est un animal politique, est-ce que c'est un animal aussi religieux ? Vous montrez bien dans votre livre que ceux qui ont voulu détruire ou extirper le religieux du débat, du monde, de la société, ni plus ni moins, restent une minorité. Même un Robespierre a voulu créer une religion.
C'est en effet un fait intéressant sur lequel je suis évidemment très loin d'être le premier à me pencher, à savoir ce désir d'absolu, ce désir de transcendance que l'on trouve sous différentes formes, sous les formes même les plus variées, les plus bariolées, dans l'ensemble de l'humanité jusqu'à une époque finalement très récente. L'athéisme est un phénomène très récent, à supposer bien entendu qu'il soit intégral, qu'il soit réel, et qu'il ne laisse pas quelque chose comme du sacré rentrer par la porte de derrière, ou par la fenêtre, si vous préférez une autre image. Mais il est de fait que le parcours de l'humanité depuis fort longtemps, a été accompagné par... quelque chose, au pluriel, que l'on classe dans la catégorie du religieux. Les anthropologues, enfin les paléontologues, les préhistoriens, nous expliquent par exemple que on trouve dans certaines sépultures, dans certaines tombes qui doivent dater, si ma mémoire est bonne, au moins de moins 100 000 ans, on retrouve des pollens dans une quantité bien plus grande que qu'ailleurs. Ce qui laisse supposer que le cadavre, lorsqu'il était inhumé, et qui ne reste plus là que sous la forme de quelques ossements en petits morceaux, le cadavre devait être accompagné de fleurs. Bon, alors, qu'est-ce que ces fleurs, qu'est-ce que la présence de ces fleurs signifiait ? Bon, on peut très bien dire que c'est uniquement pour combattre la puanteur, mais on peut peut-être dire aussi qu'il s'agit d'une sorte d'hommage, éventuellement de symbole d'un possible refleurissement, si l'on peut s'exprimer ainsi, et donc de quelque chose de religieux. Et bon, dans l'histoire au sens propre, c'est-à-dire ce pourquoi nous avons des témoignages écrits, bah, là aussi, le religieux accompagne l'aventure humaine depuis le début de l'histoire et de l'écriture, en gros moins 3000, jusqu'à nos jours, avec justement ce phénomène nouveau, relativement récent, qu'est l'athéisme. Puisque dans le monde ancien, on trouve des négateurs de Dieu personnel, enfin, plus ou moins personnel. On trouve des gens qui se moquent des Olympiens dans la Grèce ancienne. Mais on ne trouve personne qui nie l'existence du divin. Alors un divin que l'on va situer d'autre façon que sur le sommet de l'Olympe, ou, puisqu'il s'agit quand même d'une métaphore, dans un monde étranger et supérieur au monde humain, et que l'on cherchera par exemple dans les corps célestes. Hein, on va avoir une sorte de religion céleste que l'on a essayé de décrire. Et même de nos jours, vous avez eu tout à fait le droit de le rappeler, un Robespierre s'opposait aux héritiers des Lumières radicales du XVIIIe siècle, des gens comme Hébert par exemple, qui alors là voulaient en finir avec la religion et pas seulement avec le christianisme catholique qui était dominant dans la France d'alors. Eh bien Robespierre lui a proposé un culte de l'être suprême, qui ressemblait quand même pas mal à cette religion civique que Rousseau prônait à la fin du contrat social, donc admettant l'existence d'un être suprême, terme qui n'a pas été inventé par Robespierre, mais qui est déjà chez Fénelon, par exemple, et dans un contexte tout à fait chrétien, l'existence d'un être suprême, disais-je, est l'immortalité de l'âme. On trouve encore certaines églises qui avaient été converties en temples de l'être suprême au moment de la Révolution, sur lesquelles est écrit le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. En d'autres termes, le Dieu rémunérateur et vengeur qui convenait à Voltaire pour que son valet ne le dévalise pas.
Rémy Brague, vous avez déjà parlé du monothéisme. Je voudrais approfondir un peu cette idée. Un peu comme le terme religion, c'est notre conception de l'idée du monothéisme est une conception très contemporaine, on va peut-être même dire trop contemporaine. Vous revenez sur le terme, vous le décortiquez et vous expliquez que le monothéisme, c'est une structure complexe, que l'affirmation de l'unicité de Dieu dans l'histoire, dans les textes sacrés, n'apparaît jamais seule. Or, aujourd'hui, dans un souci peut-être pacificateur, on veut parler des trois religions monothéistes ou des trois religions du livre, alors que ces expressions, elles ne recouvrent aucune réalité de ce que sont le christianisme, le judaïsme et l'islam ?
Dans un livre antérieur, auquel j'ai donné le titre volontairement désinvolte et presque moqueur de « Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres », pour indiquer qu'il ne s'agissait pas du tout d'un traité lourd de sciences des religions, mais d'un essai, si vous voulez, un essai plus léger, plus facile, j'ai commencé, effectivement, au premier chapitre, par hacher menu comme chair à pâté, trois expressions que l'on rencontre à peu près partout, dans les médias surtout, donc là où l'on pense le moins, à savoir les trois religions, les trois monothéismes, les trois religions du livre, les trois religions d'Abraham. Et j'ai montré que si effectivement ces trois religions sont monothéistes, en ce sens que le nombre des dieux, si je puis dire, y est égal à un, hein, que l'ensemble des dieux est un singleton, bon, ça n'est pas de la même façon que l'unicité du divin y est comprise. Que si dans ces trois religions, il y a effectivement un livre, le livre n'y joue pas du tout le même rôle. Que si dans ces trois religions, il est bien question d'Abraham, enfin, si le nom d'Abraham apparaît dans les livres sacrés, il n'a pas du tout la même fonction. C'est, d'une certaine manière, ce n'est pas le même personnage. Ce qu'il fait, bon, Abraham pour nous c'est un nom. Ce qui le singularise, c'est son histoire. Or, l'histoire d'Abraham telle qu'elle est racontée dans les trois livres saints présente quand même des divergences tout à fait remarquable. Et il y a un fait tout à fait intéressant dans le Coran. À deux reprises, un verset nous dit que il ne faut être ni juif ni chrétien, mais avoir la religion d'Abraham. Et Abraham n'était ni juif, puisqu'il est antérieur à Moïse, ni chrétien, puisqu'il est, à plus forte raison, antérieur à Jésus-Christ. Donc, lorsque, selon les religions, on emploie l'expression « religion d'Abraham », on ne veut pas dire du tout la même chose, et on veut même dire, en l'occurrence, des choses qui s'excluent. Puisque lorsque une bonne sœur, à quelque sexe qu'elle appartienne, nous dit « les trois religions d'Abraham, nous avons tous le Dieu d'Abraham », elle a pour intention d'inclure. Lorsqu'un musulman parle de la religion d'Abraham, au contraire, il exclut. Il exclut et il réserve, si je puis dire, le titre, la dignité, si l'on veut, de religion d'Abraham au seul islam. Le christianisme et le judaïsme étant sortis, si l'on peut dire, de la pureté de la foi abrahamique en y ajoutant des éléments étrangers et de nature essentiellement polythéiste.
Autre sujet que j'évoquais dans mon introduction, la question de la foi et de la raison. Et on se souvient, c'était en 2006 à l'université de Ratisbonne, à l'occasion d'un discours universitaire, le pape Benoît XVI, qui avait enseigné dans cette université, avait assimilé, en citant un empereur, Manuel Paléologue, il avait assimilé violence et islam. Et en fait, si vous voulez, enfin, je pense que nos auditeurs le savent, parce que ce sont des auditeurs qui lisent, le sujet de cette conférence, c'était la foi et la raison. Et vous prenez comme point de départ dans votre livre cette conférence et vous montrez, vous la décortiquez avec une volonté qui est de montrer qu'au fond, ce qu'a voulu montrer Benoît XVI, que Dieu se devait d'être accessible, se devait être le Dieu du Verbe, du Logos.
Oui, alors effectivement, il y a cette histoire tout à fait regrettable du discours de Ratisbonne, enfin Regensburg si vous préférez. Il se trouve que l'on m'a demandé, pour un collectif allemand, de commenter justement, enfin d'écrire un commentaire de ce texte, ce que j'ai fait. Et le chapitre du livre que vous avez sous les yeux est en fait, je me suis traduit de l'allemand au français, et j'ai élargi bien entendu, et j'espère améliorer, bon ça c'est vous qui me le direz, mon texte allemand originel, en prenant en vue justement ce qui est central dans ce texte, qui n'est nullement le rapport à l'islam, mais bien ce qui constitue, je dirais presque, une obsession du pape Benoît XVI, maintenant pape émérite, à savoir l'articulation et, si je puis dire, l'entraide que peuvent s'apporter la foi et la raison. Entraide qui va dans les deux sens. Hein. La raison doit passer au crible ce qui ne pourrait n'être qu'un vague sentiment religieux et l'amener à une formulation accessible à la raison, d'une part. Et d'autre part, la foi est capable d'éclairer la réalité d'une manière qui fournira à la raison de nouveaux objets. Hein, elle, dans l'histoire de la théologie chrétienne, ce qui est presque une tautologie d'ailleurs, mais dans l'histoire de la théologie, donc, je dis une tautologie parce que les sciences religieuses dans d'autres religions n'ont pas la même fonction que la théologie en régime chrétien. Elles peuvent être d'un raffinement, d'une subtilité extrême, mais leur cahier des charges n'est pas le même. Enfin bon, peut-être reviendrons-nous là-dessus ou pas. En tout cas, l'histoire de la théologie le montre, elle a fourni à la réflexion rationnelle des objets qui jusqu'à présent étaient inouïs, y compris quelque chose qui nous semble maintenant terriblement banal, la notion de personne. La notion de personne est une notion théologique. C'est une notion qui a été forgée pour rendre compte du mystère de la Trinité, des trois hypostases, on dit des trois personnes d'une manière un peu vague, dans la même substance divine. Eh bien, cette notion de personne, qui est maintenant finalement à la base de notre civilisation, et qui a donné beaucoup de fil à retordre à tous les penseurs, pas seulement théologiens, mais aussi philosophes et juristes, eh bien, voilà, elle est, si je puis dire, un don de la foi à la raison. Étant donné que si vous regardez un homme au microscope, enfin un bipède sans plumes au microscope, vous n'y verrez jamais une personne. Hein, vous verrez toutes sortes de choses, vous verrez un consommateur, vous verrez un citoyen, vous verrez éventuellement une usine à organes à transplanter ou un utérus à louer, bon, mais vous n'y verrez pas une personne. Pour le voir comme personne, il faut une lumière, et cette lumière, je me demande si elle peut venir d'ailleurs, en dernière analyse, que de la foi. Donc, dans cette analyse du discours de Ratisbonne, ben, j'insiste fortement sur la problématique foi-raison, et je ne traite là aussi que tout à fait en marge, comme le pape l'avait fait, l'exemple de l'islam. En fait, il est venu à parler de l'islam parce qu'il a trouvé, je crois un peu au hasard de ses lectures, cette phrase de l'empereur Manuel Paléologue, qui était alors en captivité, qui était otage, n'est-ce pas, d'un prince musulman, persan. Il a trouvé cette phrase magnifique un dieu qui ne serait pas rationnel ne serait pas un dieu. Bon. Et en bon universitaire, hein, en bon Herr Professor, devant un parterre de ses pairs à l'université de Ratisbonne, eh bien, il a indiqué la source, avec la référence, note en bas de page, enfin, comme tout universitaire honnête doit le faire, et il a indiqué le contexte, en disant que l'empereur s'exprimait d'une manière, d'une raideur telle qu'elle était inacceptable. Mmh. Bon. Mais la citation reste là. Alors, bien entendu, je ne sais quel personnage peu respectable moralement a tiré la phrase de son contexte et l'a lancée aux médias, provoquant la colère téléguidée de ce que l'on appelle la rue arabe. Nous étions avant le printemps arabe, donc tous les pays arabes et musulmans étaient vissés au dernier point, et si on a laissé les gens manifester dans les rues, c'est parce qu'ils en avaient reçu l'autorisation. Et je crois que les dictateurs du moment ont employé cela comme une sorte de soupape. Sans jeu de mots avec le pape, n'est-ce pas, une sorte de manière de libérer un peu les passions populaires qui autrement auraient pu se tourner vers, et en l'occurrence contre, les dictateurs. Nous le voyons, nous l'avons vu en Tunisie, nous l'avons vu en Syrie, hélas. Bon. Et oui, ce que j'ai essayé de montrer, c'est vraiment que la raison n'est pas l'autre de la foi, mais elle en est, si je puis dire, le partenaire. Alors j'ai essayé de montrer, par exemple, que on trouvait du rationnel là où on ne pourrait, où on s'y attendrait peut-être un petit peu moins. Hein. Nous avons pris l'habitude de considérer que la raison est une sorte de privilège de la pensée grecque. Bon. Le fameux logos que d'ailleurs le pape cite dans l'original grec, n'est-ce pas ? Bien, j'essayais de montrer que les idées fondamentales de la philosophie se trouvaient aussi dans la Bible, sous une forme narrative évidemment, pas oui. pas sous une forme conceptuelle. Il n'y a pas de là le concept est effectivement un monopole grec, mais la présence narrative de la raison, la présence narrative du concept de nature, par exemple, qui est à la base même de l'entreprise philosophique, eh bien, j'essaye de montrer que c'est dans la Bible aussi.
Je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission avec Sébastien Morlet, donc de la Sorbonne, qui a travaillé sur christianisme et culture, sur les liens, justement, oui, entre le monde culturel grec, la philosophie grecque et le christianisme. Alors, il y a cette articulation, foi, raison, et il y a une autre articulation que vous présentez, et qui est très surprenante parce que vous apportez un nouveau concept. On oppose généralement le droit naturel, oui, et le droit positif. Mm-hmm. Or, sans tenter une réconciliation, vous les décrivez, l'un et l'autre, vous voyez les passerelles entre l'un et l'autre, mais aussi vous apportez une troisième notion qu'on pourrait qualifier de droit divin, mais ce n'est pas le droit divin. Au fond, le droit divin renvoie à une conception bien particulière dans l'histoire. Vous préférez le terme de loi divine. Donc, oui, il y a trois concepts, le droit positif, le droit naturel et la loi divine.
On pourrait dire plus simplement qu'il y a deux versions du droit positif. Le droit positif, je le rappelle, c'est le droit que l'on pose, un peu au sens où l'on parle d'un orgue positif, qu'on peut le déplacer. Bon. Il y a deux sortes de droits positifs. Il y a un droit positif d'origine humaine, et puis un droit positif d'origine divine. C'est ça le problème. Nous avons pris l'habitude de faire passer l'idée de divinité plutôt du côté du droit naturel, nous autres occidentaux, héritiers non seulement du christianisme, mais du droit romain, et avec lui, de la sauce philosophique qui l'a souvent accompagné et qui est d'origine stoïcienne. Pour les stoïciens, la nature était quelque chose de divin. Dieu, c'était le feu créateur qui donne naissance au monde et qui se rétracte de façon cyclique dans la conflagration finale avant de redonner un nouveau monde. Mais le divin et le naturel coïncident. C'est par un instinct divin que l'homme est porté à porter secours à son prochain. C'est par une sorte d'instinct, si vous voulez, que nous indiquons très banalement son chemin à quelqu'un que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam, qui nous demande une direction dans la rue.
On a besoin d'un point d'appui.
Alors, ça c'est assez vague, si vous voulez, comme divinité dans le stoïcisme. Dans le christianisme, Dieu n'est pas la source du droit, à la différence de l'Ancien Testament. Les normes que préconise le christianisme sont des normes, humaines. Le christianisme a gardé les 10 commandements et allégoriser les 603 autres, puisqu'il y en a 613 en tout, selon le décompte opéré par les rabbins. Et du point de vue d'ailleurs des rabbins, le christianisme, comme toutes les autres nations, comme toutes les nations qui ne sont pas Israël, sont gouvernées, devraient être gouvernées par les 7 commandements qui ont été donnés à Noé, à la sortie de l'arche. Je rappelle que Noé est l'ancêtre de tous les hommes, puisque la première génération, si je puis dire, les fils d'Adam, ont été effacés de la surface de la terre par le déluge. Donc, ce qui est donné à Noé vaut pour tous les hommes. Et ces 7 commandements, ou les 10 commandements qui n'y font que quelques ajouts assez minimes finalement, sont ce que j'appelle le kit de survie de l'humanité. Ce sont des banalités. Et c'est pour ça d'ailleurs, il y a des imbéciles qui considèrent ça comme une objection contre le christianisme, qui font remarquer que ces commandements se trouvent partout ailleurs. Bien sûr, oui, évidemment, le décalogue n'a d'une certaine manière rien inventé. Il ne fait que codifier, rassembler des indications sans le respect desquelles une société humaine irait assez vite à sa perte. Donc, ce qu'il y a d'assez remarquable justement dans le christianisme, c'est que il se contente d'une loi, alors que l'on peut appeler naturelle si l'on veut, mais le mot naturel ayant tellement évolué avec le temps, en particulier depuis la rupture qu'a introduite la philosophie moderne. Et maintenant, quand on dit naturel, on pense aux fleurs et aux petits oiseaux. Et lorsque l'on parle de loi naturelle, très souvent, on comprend la loi de la jungle. Et il est évident qu'il n'est pas question des rapports civilisés entre les hommes, de se régler sur la façon dont les gros poissons mangent les petits, qui par la suite dévorent le cadavre du gros poisson. Non, naturel, dans ce cas-là, ça veut dire rationnel. Ça veut dire accessible à la raison, non aidée, à la raison qui se passe d'une révélation. Alors j'ai essayé d'opérer une sorte de triangulation des fondements possibles du droit. Soit droit naturel au sens banal du terme, soit droit positif, mais un droit positif ne reposant que sur la volonté humaine, que toutes les normes dépendant d'une norme supérieure qui est purement normative, qui ne décrit rien. Et puis, troisième possibilité, l'idée d'une loi divine, d'une loi alors là, d'origine divine, et positive, c'est-à-dire révélée à un moment de l'histoire et imposée eh bien, à l'ensemble de l'humanité.
Vous faites une prédiction dans votre livre, vous dites « à long terme, l'humain ne pourra s'appuyer sur autre chose que du divin ». C'est un peu un écho à la fameuse phrase de Malraux dont je parlais tout à l'heure. Vous pensez à ce retour du religieux? On ne peut pas en faire l'économie. Et d'ailleurs, votre réflexion sur la laïcité, parce qu'on va y venir, l'Église et l'État, vient juste après cette prédiction.
Oui, tout à fait. Bon, il est toujours dangereux de manipuler la boule de cristal, et ça n'est pas un sport qu'un philosophe normalement constitué pratique régulièrement. Simplement, j'ai voulu résumer dans ce livre ce que je crois avoir acquis, je ne sais pas si j'ai raison, enfin on me le dira, dans un petit livre antérieur qui s'appelle « Les encres dans le ciel ». C'est une image que j'ai empruntée à Rivarol, dans un tout autre contexte, et je veux exprimer par là que, alors effectivement, à long terme, je vois mal l'humain continuer à avoir confiance en sa propre légitimité sans l'accrocher à une transcendance. Alors, une transcendance de quel genre? Bon, pour moi, je crois qu'il doit s'agir d'une transcendance verticale. Il y a des gens qui ont essayé de penser une transcendance horizontale qui serait l'avenir, qui serait une sorte de mouture plus actualisée du concept de progrès, incluant les lendemains qui chantent, bien connus, et qui ont d'ailleurs assez tendance à déchanter souvent. Cette notion d'une transcendance horizontale me semble ne pas tenir la route, parce que justement l'avenir dépend de nous. Que l'humanité ait un avenir, la question est entre nos mains. Alors ce que j'ai essayé de montrer, et que je ne fais dans le livre que vous avez sous les yeux que résumer, parce que bon, j'aime pas trop me répéter, c'est un peu humiliant même, en tout cas c'est vexant pour le lecteur, qui a l'impression que bon, on lui serine des choses. Mais ce que j'ai essayé de dire, c'est que l'humanité se trouve actuellement dans une sorte de crise, une crise assez soft, si vous voulez, pas nécessairement explosif, au sens propre comme au sens figuré, une crise de confiance en soi-même. Nous ne sommes plus tellement sûrs d'être les gentils, au sens hollywoodien du terme, d'être ceux qu'il faut défendre, d'être la jolie blonde qui est attachée sur les rails et que Zorro va venir délivrer. Nous ne sommes plus tellement sûrs que nous méritons que Zorro vienne nous délier. Nous ne sommes plus tellement sûrs que nous ne serions pas, par exemple, le prédateur le plus dangereux de la planète, celui qui met en danger l'existence des autres espèces vivantes. Nous ne sommes même plus tellement sûrs de nous distinguer radicalement des singes les plus élevés. Nous essayons de trouver des éléments du langage, des éléments du sens moral, des éléments de la vie sociale chez d'autres espèces que nous. Ce qui fait que nous nous demandons si nous valons vraiment la peine d'être préservés. Et il y a des gens, d'ailleurs, qui estiment que non, pas du tout, que plus tôt on aura fermé boutique, mieux ça sera pour le bien de la planète et des autres espèces. Et comme en plus nous avons maintenant les moyens, nous avons les moyens de nous faire taire, si je puis dire, en ce sens que nous pouvons nous autodétruire, soit par une guerre totale, atomique, éventuellement biologique, on me dit maintenant aussi nanotechnologique, enfin, on entend parler de choses assez affreuses, de possibilités assez affreuses, nous avons toutes sortes de moyens d'en finir, et on se demande si vraiment nous allons pouvoir continuer encore longtemps à jouer ce petit jeu, dont on se demande si ce n'est pas un jeu de bip. Bon. Alors, comment faire ? Comment faire sans se raccrocher à quelqu'un qui nous dirait, et qui d'ailleurs l'aurait dit déjà, que tout cela, malgré les apparences, malgré le mal qui sévit, que tout cela était très bon. Hein ? Je fais bien entendu allusion aux dernières... phrase du récit de la création, du premier récit de la création dans la Bible. Hein. Dieu vit que tout cela était très bon. Ce qui est une affirmation assez culottée. Hein. Schopenhauer trouvait cette affirmation absolument odieuse. Et d'un certain point de vue, il avait raison. Hein. Si ça veut dire que tout baigne, non. Si en revanche ça veut dire que tout ce qui est créé est bon, et que la balle est dans notre camp, et que c'est à nous de, ne pas saloper la création, ne pas la pervertir, ne pas la détruire, alors là, ça prend du sens. Hein, ça veut dire, nous sommes responsables, le cadre dans lequel nous vivons est positif, il est bon, nous avons nous y comporter de manière raisonnable.
Nous arrivons, Rémi Brague, au terme de cette émission, peut-être une dernière question, mais qui vaudrait à elle seule toute une émission. Faut-il redéfinir les liens entre l'Église et l'État? Alors, bien évidemment, votre réflexion, elle est globale. Vous parliez, comme vous le disiez tout à l'heure, à la fois du judaïsme, de l'islam et du christianisme. Mais pour la France, rien que pour la France, est-ce que vous estimez, vous, qu'en France, aujourd'hui, il serait nécessaire de redéfinir ce qu'on appelle une séparation et ce que vous refusez d'appeler une séparation parce qu'il y a toujours une forme de dépendance?
Oui, ce que je veux dire, c'est que il n'y a jamais eu de déchirure de quelque chose qui aurait été une unité préexistante.
Il n'y a pas d'unité avant.
Ah, il n'y a pas d'unité avant. Il y a, dès le début du christianisme, qui est quand même la religion qui a marqué la France, ça c'est une banalité de le dire, il y a, dès le début du christianisme, une distinction entre l'Église et l'État. Et ceci pour une raison extrêmement simple, c'est qu'au début du christianisme, l'État, c'est l'État romain. Et qu'est-ce que fait l'État romain? Il persécute les communautés chrétiennes. Donc la tentation de confondre les deux était inexistante, était impossible. Et après l'OPA réalisé par Constantin sur cette religion dont il voyait que malgré les persécutions, elle continuait à progresser et qu'il avait donc plutôt intérêt à essayer d'en capter l'énergie pour redonner un second souffle à l'Empire romain dont la religion officielle battait de l'aile. Même après ce tournant, la dualité Église-État s'est poursuivie. Et quand on dit séparation de l'Église et de l'État, cela suppose qu'il existe quelque chose comme une Église et qu'il existe quelque chose comme un État. Or, ni l'un ni l'autre ne vont de soi. Et bon, ne parlons pas de l'État, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'Église est un phénomène exclusivement chrétien. Vous n'avez pas l'équivalent dans le peuple juif ou dans la nation musulmane. Ce ne sont pas des églises, c'est un phénomène.
L'Oumma, par exemple, n'est pas une église.
C'est ce que je viens de dire en français, la nation, je ne trouve pas d'autre mot pour décrire ce mot, pour traduire ce mot, dont la racine est l'idée de maternité, n'est-ce pas? Bon, nation, natio en latin, c'est la portée d'un animal, les deux petits Romulus et Rémus, qui seraient la portée de la louve romaine. Bon. Si l'on admet l'existence d'une église et d'un État, alors elles sont séparées d'emblée. Ce que l'on appelle séparation de l'Église et de l'État, c'est la fin d'une coopération. L'Église et l'État ont cessé de tirer dans la même direction. Coopération qui n'avait pas été sans entraîner pas mal de compromissions. D'ailleurs, dès Constantin, une bonne partie des dignitaires ecclésiastiques, je pense à Eusèbe de Césarée, alors là qui est le cas d'école pour ça, ont avalé l'offre de Constantin, comme on dit en anglais, avec le hameçon, la ligne et le flotteur. Hein, comme ça, bon, ils ont pris ça très littéralement. Mais très vite, se sont mises en place des contre-instances. Alors le droit canon, un système juridique autonome, qui ne s'occupe absolument pas des questions dont s'occupe le droit habituel, si je puis dire, questions de propriété, ou de bon, mais l'accès au sacrement, l'accès au sacerdoce, et des choses de ce genre-là. Et puis d'autre part, eh bien, les troupes de choc qui ont permis à l'Église de résister, à savoir le monachisme, le mouvement monastique. Monastique, qui a joué son rôle jusque, y compris, la fameuse querelle des investitures entre le pape et l'empereur.
Entre Grégoire VII et Henri IV.
À partir du XIe siècle, il y a eu plusieurs protagonistes, ça s'est bien passé sûr, avec plusieurs... acteurs, tantôt dans le rôle du pape, tantôt dans le rôle de l'empereur. Bien.
Merci.
Donc, quant à la France, le problème actuellement, c'est non pas de redéfinir la laïcité, puisque ce mot a l'avantage d'être indéfinissable, de n'avoir jamais été défini, et de servir justement à être ambigu, si je puis dire, de servir d'auberge espagnole pour une interprétation soit vraiment chrétienne, à savoir, bon, séparation des compétences, bon, aucune n'empiétant sur l'autre, soit franchement laïcarde, tentative de laïciser la société. Je dirais, en reprenant une formule de mon vieil ami Pierre Manin, que si l'État doit être laïque, c'est précisément parce que la société ne l'est pas. Et si l'État essaye de laïciser la société, il sort de son rôle. Et il s'érige lui-même en une sorte de religion.
Eh bien, merci beaucoup Rémi Brague pour vos réponses à toutes ces questions. Je renvoie nos auditeurs à votre livre sur la religion, un ouvrage paru chez Flammarion. Encore merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.